Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts d'Educa sur la numérisation dans l'éducation. Je m'appelle Benjamin Folland. Dans cette série, nous parlons des principaux résultats de notre rapport « La numérisation dans l'éducation » et ce qu'il signifie pour la vie, l'enseignement et l'apprentissage dans les écoles en Suisse. Aujourd'hui, nous jetons notre regard froid de statisticien sur un sujet toujours très discuté, ce que cela fait réellement aux enfants et aux jeunes lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, ils passent une partie substantielle de leur temps avec ou devant des appareils et des applications numériques. Quelles sont les conséquences sur leur santé physique et mentale, sur leur développement social et cognitif? Et quelles conséquences devraient être tirées pour l'utilisation de ces appareils à l'école? Ce sont des questions qui préoccupent depuis un certain temps les parents et les pédagogues, la politique et l'administration de l'éducation. Et ce sont des questions qui, en grande partie, sont explosives sur les plans politiques. Pas seulement, mais aussi à l'ouest de la Suisse, où ces craintes ont notamment conduit au rejet par les grands conseils génois du programme de numérisation des écoles primaires du gouvernement. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à l'état actuel de la recherche sur ces questions. Pour reprendre le terme de neuroscientifique et psychiatre allemand, nous allons nous demander si les médias numériques rendent gros, stupides, agressifs, solitaires, malades et malheureux.
Educa, agent novateur.
Les appareils et les médias numériques font désormais partie de notre quotidien. Cela vaut pour les adultes, les enfants et les adolescentes. Selon les résultats de dernières études sur l'utilisation des médias menées par la Haute École des sciences appliquées de Zurich, un bon quart des enfants de 6 à 7 ans en Suisse possédaient leur propre smartphone en 2019. Et à partir de 12 ans environ, tous les adolescents possèdent leur propre appareil. Et ils utilisent aussi cet appareil. En 2020, la médiane de la durée d'utilisation quotidienne de jeunes de 12 à 17 ans en Suisse était de 5 heures le week-end et d'un peu plus de 3 heures en semaine. Médiane signifie qu'une moitié des jeunes utilisent les appareils moins longtemps, l'autre moitié plus longtemps. C'est beaucoup de temps. Sur une année entière, cela représente environ 1300 heures, et donc presque 300 heures de plus que le temps total d'enseignement d'une année scolaire à la fin de l'école obligatoire. Sans aucun doute, le média numérique monopolise donc une partie considérable de l'attention, ils sont chronophages. Et les temps que ces appareils consomment manquent naturellement pour d'autres choses. Ils manquent par exemple pour le sport, pour les échanges sociaux analogiques avec la famille et les amis, ou pour faire ses devoirs. Et il est également difficile de dormir en regardant son téléphone portable. Cette éviction d'autres activités potentiellement plus saines, potentiellement plus productives, potentiellement, entre guillemets, meilleures, cette monopolisation du temps par les médias numériques ne passe évidemment pas inaperçue chez les adolescentes et leur environnement social. Premièrement, c'est une source importante de conflits dans les familles, entre amis, entre collègues. Ainsi, dans l'échantillon suisse de l'enquête EU Kids Online, en 2018, environ un jeune sur 7 âgé de 11 à 16 ans a indiqué qu'il s'est disputé régulièrement avec des amis ou des membres de sa famille parce qu'il était trop en ligne. Et un jeune sur 4 a indiqué qu'il négligeait sa famille, ses amis ou ses devoirs pour cette raison. Deuxièmement, il existe des risques spécifiques liés à l'utilisation des contenus numériques. Ainsi, l'enquête EU Kids Online montre également que le contact avec des contenus potentiellement problématiques, représentation de la violence, pornographie, grooming, cyberharcèlement, ces contacts font partie de l'utilisation quotidienne d'Internet pour une proportion non négligeable d'enfants et de jeunes en Suisse. Mais c'est surtout l'utilisation des médias numériques en tant que telle qui suscite des inquiétudes et des craintes. Cela concerne les effets de certaines technologies comme les rayonnements électromagnétiques ou la lumière des écrans LED, mais aussi l'idée que la consommation de contenus numériques, surtout sur une longue période, pourrait être nocive pour la santé physique et mentale des enfants et des adolescentes. La palette des conséquences possibles de l'utilisation des médias numériques est extrêmement large. Elle va des problèmes de développement social, émotionnel et cognitif, tels que le stress, le déficit d'attention, le trouble anxieux, la dépression, le problème scolaire, les dépendances et les troubles du sommeil, jusqu' aux conséquences physiques telles que le problème de posture, l'obésité, voire le cancer. Il n'est donc pas surprenant que les questions relatives aux effets de l'utilisation des médias numériques sur la santé physique et mentale des enfants et des adolescentes fassent l'objet d'un débat public animé depuis des années. Ceux qui influencent ce débat, ce sont souvent des ouvrages de vulgarisation scientifique qui mettent en garde, parfois de manière très radicale, contre les effets de l'utilisation des médias numériques sur le développement cognitif, émotionnel et social des enfants et des adolescents. On y parle par exemple de la démence numérique qui se propage à toute vitesse ou de l'émergence d'une génération transformée en crétins digitaux par cette épidémie des smartphones et des réseaux sociaux. Ce qui ne contribue pas non plus à rendre ce débat plus objectif, c'est le fait qu'il existe d'entre-temps un flotte de résultats divergents d'études empiriques portant sur des dizaines de disciplines scientifiques sur ces questions. Conséquence, il existe au moins un résultat d'études approprié qui soutient chaque position sur un spectre allant d'effets salutaires à mortels. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas les particularités du domaine de recherche et peut-être aussi la méthodologie statistique, une évaluation de cette quantité de résultats parfois contradictoires est très difficile, voire impossible. Toutefois, ces dernières années, toute une série d'études de synthèse et des méta-analyses, c'est-à-dire d'études sur des études, ont vu le jour qui permettent en fait de résumer judicieusement le nombreux résultats et de les classer objectivement. L'un des principaux résultats de ces études est par exemple qu'il existe souvent des liens statistiquement démontrables entre l'intensité, la fréquence et la durée d'utilisation des médias numériques et certains problèmes de santé ou de comportement. Cela signifie que les enfants, les adolescentes, qui utilisent ces appareils et ces médias d'une manière plus intensive, ont plus souvent de problèmes de santé ou des difficultés scolaires. Mais si l'on observe les enfants et les adolescentes au fil des temps, c'est-à-dire si l'on fait une étude longitudinale, on constate qu'une modification de l'intensité d'utilisation ne s'accompagne pas d'un changement de l'état de santé, de la stabilité émotionnelle ou des performances cognitives. Ce qui veut dire que ce sont souvent les adolescentes qui ont déjà des problèmes de santé, sociaux ou scolaires, qui utilisent ces offres de manière plus intensive. Il est donc faux, fondamentalement faux, d'interpréter la corrélation observée de manière transversale comme un effet causal de l'utilisation de ces appareils ou contenu sur la santé ou le bien-être des adolescentes. Mais même lorsque des effets de cause à effet sont démontrables, les liens trouvés sont généralement faibles. Un exemple, une étude menée sur un panel de 6300 jeunes de 10 à 15 ans en Grande-Bretagne a pu montrer qu'une augmentation de la vitesse d'Internet disponible à la maison entraînait une baisse significative de la satisfaction de vie, notamment de la satisfaction par rapport à sa propre apparence. Cependant, les modèles empiriques utilisés, qui tiennent compte d'aspects tels que le revenu et le statut des parents sur le marché du travail, ces modèles ne peuvent expliquer qu'environ 10% du changement observable dans la satisfaction de vie des jeunes. En d'autres termes, même si nous attribuons toute la variance à la modification de l'utilisation d'Internet, nous ne pourrions pas expliquer plus de 10% de la modification de la satisfaction de vie. 90% seraient ou sont à attribuer à des autres facteurs qui n'ont pas été observés. Une image tout à fait similaire apparaît d'ailleurs lors de l'examen des résultats substantiels des études transversales. Même si l'on était prêt à interpréter les corrélations issues de ces études comme des effets causaux, et je le répète, c'est une terrible erreur de raisonnement, les résultats de ces études de synthèse suggèrent que les différences dans l'utilisation des médias numériques pourraient expliquer moins de 1% des différences existantes en matière de santé physique, mentale ou émotionnelle. Ce n'est pas rien, mais c'est très loin de la catastrophe épique que l'on évoque et dont les médias numériques sont parfois tenus responsables. Pour être clair, il n'existe actuellement aucune base scientifique solide pour affirmer que les médias numériques sont responsables de votre sentiment ou de celui de vos enfants d'être gros, stupide, seul, malade ou malheureux. Cela ne veut pas dire que nous pouvons ou devrions systématiquement exclure un effet négatif de l'utilisation sur la santé. Au contraire, et ce n'est pas sans raison que l'Organisation mondiale de la santé et l'Association américaine de psychiatrie estiment que le jeu vidéo et sur Internet peuvent créer une dépendance. Il y a des bonnes raisons à craindre qu'il en soit de même pour les réseaux sociaux ou Internet en général. Selon des estimations réalistes, jusqu'à 2,5% de jeunes en Europe pourront être concernés par une telle dépendance. Il est également vrai que la position assise permanente n'est pas favorable au bien-être physique. Il y a donc clairement des risques. Mais les résultats de la littérature actuelle indiquent que, malgré ces risques, la plupart des enfants et des jeunes ne subissent pas de dommages substantiels, même s'ils utilisent des médias numériques dans une mesure non négligeable. Il existe de nombreuses études en Grande-Bretagne qui suggèrent qu'une utilisation modérée pourrait être bénéfique pour le bien-être psychique et les performances cognitives des enfants et des adolescentes. Et modéré peut tout à fait signifier 5 heures ou plus par jour. Mais il faut aussi dire que même après des décennies de la recherche, la littérature scientifique a encore des lacunes importantes. Les études qui mettent en évidence des influences causales plutôt que des relations corrélatives restent très rares. De même, la durée d'utilisation domine toujours la littérature empirique en tant qu'indicateur d'un comportement potentiellement problématique, bien qu'il soit relativement clair que différentes formes d'utilisation ont des résultats différents.
Educa, agent novateur.
Et c'est une restriction importante. Ce qui a été analysé jusqu'à présent dans la littérature, ce sont surtout les corrélations entre l'utilisation ou la durée d'utilisation à des fins de communication et de divertissement privé et des différents indicateurs de bien-être. Indépendamment des résultats de cette littérature, il serait très douteux d'en déduire l'effet de l'utilisation dans un cadre contrôlé comme la salle de classe. Et c'est en fait une grande lacune dans la discussion actuelle que de faire implicitement comme si l'effet de l'utilisation des médias numériques était indépendant de ce qu'on en fait et du contexte dans lequel on le fait. Des études menées auprès d'adultes montrent assez clairement que l'effet de l'utilisation des médias numériques dépend fortement de la personnalité et des compétences des utilisateurs ainsi que du type d'utilisation. Par exemple, l'utilisation d'Internet comme source d'information semble plutôt conduire à une augmentation de la satisfaction de vie. Des études basées sur les données suisses du World Internet Project suggèrent aussi que les compétences en matière d'utilisation des technologies et des contenus numériques, par exemple la sélection consciente des sources d'information sur Internet, ces compétences jouent un rôle nettement plus important dans le prognostic de la satisfaction de vie générale que la durée d'utilisation en soi. Renoncer à l'utilisation d'outils numériques à l'école pour la seule raison que l'utilisation de ces mêmes appareils à des fins récréatives pourrait être problématique semble donc être de la surenchère plutôt qu'une proposition bien réfléchie. Toutefois, comme le montre la littérature du secteur tertiaire, où il est possible d'enregistrer techniquement le comportement des étudiantes en matière de navigation sur Internet, l'utilisation de ces appareils à des fins privées pendant les cours a des conséquences négatives sur les performances d'apprentissage. Il faut donc des règles claires et des restrictions techniques pour contrer de tels effets. Résumons. Les avertissements contre le danger des médias et de leur utilisation sont aussi anciens que les médias eux-mêmes. Il y a plus de 2000 ans, le philosophe grec Socrate prédisait déjà que l'écriture du langage conduirait à un abrutissement général et à une paresse intellectuelle. Tout simplement parce que, et c'est là qu'il y a peut-être une impression de déjà-vu, parce que les informations seront désormais disponibles partout et à tout moment. Les livres et les journaux ont pensé qu'ils abîmeraient les yeux et entraîneraient un isolement progressif des humains. Et plus récemment, le téléphone, puis la radio et la télévision ont été accusés d'entraîner un excès d'informations, une perte de savoir-vivre et un déclin des capacités intellectuelles et scolaires. Dieu merci, tous ces effets ne se sont pas produits. Les discussions montrent toutefois que les innovations dans le domaine de la communication et de l'information ont toujours suscité des craintes et des peurs. Seul l'avenir nous dira si les craintes concernant le média numérique sont fondées et si, cette fois-ci, tout est différent. Toutefois, les recherches menées jusqu'à présent ne permettent pas de dire que la plupart des craintes sont fondées. Cela ne veut pas dire que les principes de précaution ne doivent pas être appliqués. Et les organismes internationaux, tels que l'Organisation mondiale de la santé ou la plateforme Jeunes et médias, mettent cela en œuvre dans leurs recommandations. Ce sont justement ces recommandations qui soulignent, par exemple, l'importance de l'accompagnement des enfants et des jeunes dans l'utilisation des médias. La question pour le système éducatif est donc de savoir dans quelle mesure il est judicieux de limiter l'utilisation dans un cadre contrôlé et accompagné, comme la salle des classes, car le comportement de l'utilisation dans un cadre non contrôlé, comme les loisirs, peut être nuisible. Et il me reste un tout dernier point à aborder. La réponse à la question « Pouvons-nous exclure que l'utilisation des médias numériques n'est pas nocive pour les enfants et les adolescentes ?» La réponse est non, nous ne pouvons pas. Mais celui qui pose une telle question montre, en fin de compte, qu'il n'a pas compris un principe de base de la recherche scientifique et empirique. Et ça, c'est l'impossibilité de prouver l'absence d'un effet. Ce que l'on peut trouver, c'est l'absence de preuves. De nombreuses absences augmentent la probabilité qu'un effet soit effectivement très faible. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. C'est l'une des incertitudes fondamentales avec lesquelles il faut vivre si on n'est pas mathématicien. Moins incertaine est la suite de notre série podcast. Nous aborderons notamment la question de la position de la Suisse en comparaison internationale lorsqu'il s'agit de la numérisation dans l'éducation. D'ici là, merci pour votre écoute.
Educa, agent novateur.